Bienvenue à l'église au cœur de la ville. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment à l'écoute de ce message.
Voilà, donc ce matin, on entame la deuxième partie de notre message, Retrouver les vrais sens. Et le titre du message de ce matin, c'est Du miel sur la langue. Est-ce que vous aimez le miel? Oui? C'est pas mauvais, hein, le miel. On poursuit donc dans le cadre de notre série. Et le verset qu'on avait vu ensemble la semaine dernière, on va le reprendre aujourd'hui, c'est dans le livre du prophète Ésaïe, donc dans l'Ancien Testament, au chapitre 50 et au verset 4, où il est écrit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Je vous rappelle que l'objectif de cette série et d'édifier les croyants à développer ou à retrouver une bonne pratique des sens spirituels indispensable à la vie de disciples. On a vu ensemble lors du premier culte de cette série pourquoi il était important de bien savoir écouter. Un disciple, c'est d'abord quelqu'un qui sait écouter, entendre et écouter. Mais pourquoi est-ce autant primordial, selon vous, que d'écouter? Simplement parce qu'il est, à mon sens, incontournable de bien écouter Dieu pour parvenir à parler d'une manière beaucoup plus juste aussi, puisque c'est ce qui est question dans ce verset, pour que je puisse soutenir donc ceux qui passent par des moments difficiles. Donc, pour parvenir à parler d'une manière beaucoup plus juste, la plus correcte, la plus appropriée, la plus légitime, la plus exacte qui soit. Comme Ésaïe le dit au chapitre 50 et au verset 4 de ce livre, Dieu désire nous donner une langue exercée pour que nous sachions soutenir par la parole ceux et celles qui sont abattus. Dans ce verset d'Ésaïe, l'adjectif exercé, pour qu'il me donne une langue exercée, en hébreu se dit limoud, et il signifie discipliné. Qu'il me donne une langue disciplinée. C'est pas tout à fait pareil quand on va chercher le sens des mots. Il y a des choix de traduction qui sont faits. Peut-être vous avez autre chose que exercer. Moi, dans ma traduction, dans celle que j'ai prise en référence, c'est le mot exercer. Mais à partir de là, ça peut être aussi discipliné, ça peut être aussi habitué, pour qu'il me donne une langue habituée, accoutumée, ou encore enseignée, dressée. Est-ce que vous avez une langue qui a été bien dressée? Ou est-ce que votre langue, des fois, elle vous échappe un peu? Hein, des fois, elle nous échappe un peu la langue. Hein, y a un proverbe qui dit « il faut la tourner 7 fois dans sa bouche avant de dire quelque chose ». Si un jour vous voyez quelqu'un arriver vers vous qui tourne la langue, attendez qu'il ait fini. Une langue enseignée, dressée, instruite, une langue ayant appris. Et tout cela nous enseigne la nécessité de devoir apprendre beaucoup de Dieu pour pouvoir en redonner en réalité peu. On apprend beaucoup pour redonner peu. C'est comme ça. On est souvent oublieux. Et il faut apprendre beaucoup pour pouvoir en redonner peu. Il y a sans doute ici aussi une leçon d'humilité à prendre, que nous devons embrasser spirituellement et réaliser au fond de notre cœur. Apprendre beaucoup pour redonner peu, c'est aussi beaucoup d'humilité. C'est bizarre que souvent, ceux qui parlent beaucoup, c'est ceux qui en savent le moins. Un homme disait un jour, celui qui a peu de connaissances, c'est comme la confiture. Quand on n'en a pas beaucoup, il faut beaucoup l'étaler. Hein? Mais quand on en a beaucoup, on n'a pas besoin d'en étaler. Et ben, c'est à peu près pareil avec la connaissance. Et plus on a de connaissances, et à mon sens, plus on est dans l'humilité, et moins on en a fatalement, et plus on serait dans la démonstration. Et que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes qui nous disposons à augmenter notre connaissance biblique, en allant à la rencontre du texte, à la rencontre de l'écrivain du texte, de celui qui l'a inspiré, et que nous puissions eh bien, mieux connaître la parole de Dieu, mieux connaître le Seigneur qui l'a inspiré. Et je sais que plus on augmente cette connaissance-là, cette connaissance de Dieu, cette intimité avec Dieu, et plus l'humilité va naître dans notre cœur parce qu'on aborde quelque chose qui nous place dans une situation d'humilité, bien évidemment. L'écoute avant la parole. C'est pour moi important de revenir un peu sur l'écoute avant de parler de la parole. Je lisais récemment une petite citation qui disait, je n'en ai même pas l'auteur, elle disait, avant de parler, écoute, avant de réagir, réfléchis, avant de prier, pardonne, et avant d'abandonner, essaye encore. Sympa, non? J'ai trouvé ça vraiment bien. Avant de parler, écoute. Avant de réagir, réfléchis. Avant de prier, pardonne. Et avant d'abandonner, eh bien, essaye encore. Nous devons comprendre qu'il faut donc avoir l'oreille ouverte avant d'avoir du miel sur notre langue. Il me faut donc encore insister un peu sur l'écoute avec vous, tellement cette étape est incontournable, importante, essentielle. Un homme dans l'Ancien Testament avait véritablement réalisé combien il était important d'entendre Dieu lui parler. Savez-vous quel est cet homme dans l'Ancien Testament qui avait vraiment réalisé que c'était important d'entendre Dieu parler? Le roi Salomon. Dans le premier livre des rois, au chapitre 3, versets 5 à 10, il est dit « L'Éternel apparut à Salomon à Gabaon dans un songe de la nuit. Et Dieu dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Ça vous est déjà arrivé que Dieu vous dise « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » C'est plutôt sympa, non? Hein? « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Et Salomon dit « Tu as usé d'une grande bonté envers ton serviteur David, mon père, selon qu'il a marché devant toi en vérité et en justice, et en droiture de cœur avec toi. Et tu lui as donné cette grande bonté, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme il en est aujourd'hui. Et maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait roi ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je suis un jeune garçon. Je ne sais pas sortir et entrer. Et ton serviteur est au milieu de ton peuple que tu as choisi, un peuple nombreux qui ne se peut compter ni nombrer à cause de sa multitude. Donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute, pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal, car qui est capable de juger ton si grand peuple? Et la parole fut bonne aux yeux du Seigneur que Salomon eut demandé cette chose. Amen. Salomon va donc succéder à son père David en tant que roi sur Israël, et alors que Dieu lui demande « Demande-moi ce que tu veux », Salomon va dire que j'ai un cœur qui sache écouter. Que je puisse entendre ce que tu as à dire pour que ma vie et ce qui compte sur ce que je vais faire de ma vie en tant que roi, eh bien, puisse être conforme à ce que toi tu veux, Éternel. En recevant de Dieu un cœur qui sache écouter, Salomon peut manifester la véritable justice avec une compréhension exacte des situations et un bon discernement des problèmes qui lui étaient soumis. À W. Tozer, a écrit « Quiconque voudra écouter, entendra la voix céleste. » Nous ne vivons manifestement pas à une époque où les hommes acceptent facilement des exhortations à écouter. J'espère que vous acceptez ce matin. Car de nos jours, l'écoute ne fait pas partie de la religion populaire. Nous sommes en fait au point diamétralement opposé de la vraie écoute. La religion a accepté la monstrueuse hérésie que le bruit, l'importance, l'activité et l'agitation rendent un homme cher aux yeux de Dieu. Plus j'en fais, et plus Dieu m'aime. Mais ça, Tozer dit, c'est une hérésie. C'est pas parce que t'en fais beaucoup que Dieu t'aime beaucoup. En vain, vous levez-vous tôt le matin, vous vous couchez tard le soir, pour ce qui ne nourrit pas, dit le prophète âgé, l'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester à dormir toute la journée, mais ça veut dire quoi? C'est pas dans l'activité que Dieu prend forcément plaisir en nous, c'est pas dans ce que l'on fait, mais c'est dans ce que l'on est. Être est plus important que faire aux yeux de Dieu. Mais prenons courage, dit Tozer. À un peuple pris dans la tempête du dernier grand conflit, Dieu dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, stop, stop. Et il continue de le dire, comme s'il voulait nous signifier que notre force et notre sécurité ne sont pas dans le bruit, mais dans le silence. L'être humain aime pas le silence. Il a besoin de bruit. Le silence est souvent anxiogène. Si vous êtes dans des endroits où il n'y a vraiment pas un bruit, certains ont besoin toujours d'avoir un petit bruit de fond. La nuit, quand vous vous mettez à dormir dans un endroit où il n'y a aucun bruit, d'un seul coup, vous allez commencer à entendre votre cœur. Boum, boum, boum. Et certains, là, ça, j'arrive pas à dormir, j'entends mon cœur qui bat. Alors, ils ont besoin qu'il y ait un peu de bruit pour arriver à occulter certains sons, certaines choses qui, d'un seul coup, deviennent audibles alors qu'avant, elles ne l'étaient pas. Faire silence, spirituellement, c'est commencer à non seulement entendre Dieu, mais mieux s'entendre soi-même. Ça vous arrive de vous écouter vous-même, pas de vous abuser par vos propres raisonnements, mais de vous écouter vous-même dans ce que vous êtes, dans ce que Dieu aurait voulu que vous soyez peut-être. S'écouter en tant que créature de Dieu dans nos besoins, dans nos frustrations, mais aussi pour comprendre qu'est-ce que Dieu nous a donné, où nous en sommes aujourd'hui dans notre propre vie, dans notre propre vécu, dans notre propre histoire. Suis-je toujours sur le bon chemin ou est-ce que je marche un peu à côté? Au psaume 37, verset 7, il est dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Un chrétien est donc une personne qui écoute bien plus qu'elle ne parle et dont la caractéristique principale n'étant pas le bruit, mais le silence. Bizarrement, un chrétien a pour caractéristique principale pas de faire du bruit, mais d'être plutôt dans le silence. Dans Ésaïe, au chapitre 50 et verset 4, la Bible du Semeur va traduire ainsi « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue de disciple attentif pour que, par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués et il me fait tendre l'oreille matin après matin afin que je l'écoute comme un disciple. » Et dans cette traduction, les expressions « la langue de disciple attentif » et « il me fait tendre l'oreille » nous donnent à réaliser qu'une langue exercée est étroitement et directement dépendante d'une oreille exercée. Directement dépendante d'une oreille exercée. Dietrich Bonhoeffer, je vous en ai cité quelques citations la semaine dernière, ce pasteur allemand qui a été pendu à un barbelé pendant la Deuxième Guerre mondiale par les soldats nazis parce qu'il refusait de collaborer avec le gouvernement du Troisième Reich de Adolf Hitler. Bonhoeffer va écrire « Le silence est la simple tranquillité de l'individu sous l'action de la parole de Dieu ». C'est-à-dire que quand Dieu parle, quand Dieu parle à nos cœurs, nous devons apprendre à faire silence, à écouter, à entendre. Mais chacun sait que c'est quelque chose qui doit être appris et pratiqué en ces jours où la loquacité prévaut, la facilité à parler. Le vrai silence, la vraie tranquillité et la vraie maîtrise de notre langue ne s'obtiennent qu'en conséquence de la tranquillité spirituelle. Le silence du chrétien est un silence d'écoute humble et tranquille. Une juste écoute qui nous fera parler de la parole de Dieu de la bonne manière et aussi au bon moment. Au bon moment. Votre écoute de Dieu est-elle une réalité quotidienne? L'écoute est-elle votre qualité principale? Et si vous aviez à demander qu'une qualité augmente en vous, est-ce que vous demanderiez que ce soit votre capacité d'écoute? Au Proverbe 18:13, il est dit « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. » Rien que ce proverbe devrait vous donner l'envie de prier davantage pour que votre capacité d'écouter augmente. Parce que celui qui parle avant d'avoir écouté va s'attirer de la confusion, il va commettre des folies. Et combien de fois avons-nous parlé sans écouter et nous nous sommes retrouvés totalement à côté de la cible, au point que peut-être on vous a déjà dit, mais écoute ce que j'ai à te dire, là tu es en train de parler de quelque chose que je te parle pas. Alors déjà, quand on écoute, arriver à comprendre ce que les gens disent, c'est déjà difficile. Mais si on n'écoute pas, c'est totalement impossible. Trop souvent, nos propres paroles étouffent même celles de Dieu. Et même nos raisonnements sont des paroles intérieures qui interfèrent. Et parfois, nos raisonnements ne cessent d'interférer avec ce que Dieu a à nous dire. Parfois, on aurait besoin d'être un peu plus simple dans notre foi, dans la manière dont nous abordons la foi. Et pas être toujours dans la rationalité, dans l'exercice intellectuel, dans une démonstration de tri intellectuel. Voici ce que je prends, voilà ce que je rejette, voilà ce que je reçois, voilà ce que je ne reçois pas. Puissions-nous manger tout ce que Dieu nous sert, que nous n'ayons rien à bouder dans ce qu'il nous sert, dans ce qu'il nous apporte. Trop souvent, nos propres paroles vont interférer les paroles de Dieu. Savoir écouter, c'est commencer par se taire et faire taire tout ce qui en nous souhaite parler et raisonner. C'est donner à Dieu la primauté sur tout, déjà sur soi-même. C'est parcourir sa Bible, la parole de Dieu, et laisser le Saint-Esprit venir chercher, nous chercher, là où nous en sommes. Venir percuter nos rigidités, renverser nos blocages, arracher toutes nos certitudes infondées, avant même qu'il puisse y déposer sa sagesse et ses enseignements. Dwight Moody, qui était un évangéliste américain, a écrit « Quand je prie, je parle à Dieu, mais quand je lis la Bible, c'est Dieu qui me parle ». C'est intéressant ça. Quand je prie, c'est moi qui parle à Dieu. Mais quand je lis la Bible, c'est Dieu qui me parle. Écouter Dieu me parler est plus important que de lui parler. Tellement important. De plus, je crois que nous pourrions mieux nous adresser à Dieu si nous prenions le temps de mieux connaître sa parole, sa volonté. Si on prenait le temps d'écouter ce qu'il a à nous dire, alors nos prières seraient certainement plus efficaces. On ne prierait pas pour satisfaire nos passions, nos désirs, nos volontés. Mais on prierait en harmonie, en adéquation avec ce que Dieu veut, ce qu'il souhaite. Devrions chercher chaque jour à nous tenir dans le silence, devant la parole de Dieu, ouverte devant nos yeux, afin qu'il éveille notre oreille et œuvre par son Esprit Saint à la rendre sensible, perspicace, attentive, tendue, en alerte permanente, concentrée, soumise, ouverte, comme l'était celle de son Fils. Jésus, ce serviteur souffrant, dont il est précisément question dans ce passage de dimension messianique du livre du prophète Ésaïe, chapitre 50. Quelle grâce pour nous d'avoir un Dieu qui sache écouter, non? Est-ce que Dieu passe plus de temps à t'écouter que toi à l'écouter? Je dis quelle grâce d'avoir un Dieu qui sache écouter. Un Seigneur qui sache nous comprendre, mais peut-il dire autant à notre sujet? Notre Dieu est l'exemple suprême de l'amour incomparable qui écoute et comprend parfaitement l'homme dans sa situation et ses besoins les plus profonds. Et David dira au psaume 34, au verset 2, puis au verset 7 et au verset 16, je vous les lis dans la foulée, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Un Dieu qui sait nous écouter. Un Dieu qui nous écoute. Finalement, notre Dieu nous a écoutés et mieux encore, il nous a compris dans notre immense besoin que dans notre esclavage et notre misère, il est venu à notre rencontre sur la terre en nous envoyant Emmanuel, Jésus, qui signifie Dieu avec nous. Et son écoute pénétrante, motivée par un amour sans mesure, l'a conduit à descendre lui-même au milieu des hommes, dans la personne de son Fils unique et bien-aimé. Ainsi, Jésus-Christ a été la démonstration vivante de l'écoute d'amour de Dieu. Quand Dieu entend ce qu'on a à lui dire, regardez ce qu'il va mettre en place. Il va s'incarner, venir au milieu de nous, porter les péchés, nos péchés sur lui, et venir s'offrir à la croix. Oh, quel amour, quelle réponse à nos besoins. Il a juste su nous écouter. Il a compris, il a réalisé. Notre Dieu n'est pas un Dieu lointain, assis sur un trône avec une longue barbe, où quand il se lève, on a peur qu'il se prenne les pieds dans la barbe. C'est pas ça l'image de Dieu que vous devez avoir. On n'a pas un Dieu qui est détaché de nos problématiques, un Dieu qui aurait conçu la terre en disant maintenant, débrouillez-vous avec tout ce que j'ai fait. Faites-en à votre idée. Et si vous avez des problèmes, eh bien, débrouillez-vous. Peut-être de temps en temps, j'interviendrai par une colère sur un événement climatique ou je ne sais quoi. Certains ont cette image d'un Dieu courroucé devant des hommes qui n'arrivent pas à se débrouiller avec ce qu'on leur a confié. Pourtant, la Bible dit qu'il soutient toutes choses. Il est toujours en interaction avec la terre, avec les hommes. Il continue à se révéler dans les cœurs et dans les vies. Il continue à agir dans les corps malades, dans les âmes souffrantes. Il n'est pas un Dieu détaché de sa création. Son écoute pénétrante a motivé son amour, ou son amour a motivé son écoute. Prenez-le dans le sens que vous voulez. Jésus-Christ a été la démonstration vivante de l'écoute de Dieu. D'un Dieu venu vivre, mourir et ressusciter au milieu des hommes. Par le miracle de l'incarnation, Dieu nous a rejoints sur notre propre terrain. Il est devenu semblable aux hommes. Il a assumé notre nature humaine, mais sans jamais pécher. Comme nous, mais volontairement et par amour pour nous, il a connu la fatigue, la faim, la soif, la douleur. La tentation sous toutes ses formes, les plus cruelles et les plus subtiles. Il a enduré des souffrances morales et spirituelles de tout ordre. Lié à toutes les lèpres humaines qu'il côtoyait de très près. Il venait au contact de l'homme. Incompréhension, moquerie, haine et mensonge, violence, cupidité et lâcheté sont parmi nos lèpres. Et ses souffrances ont atteint le point culminant absolu sur la croix où il est finalement mort à notre place. L'incarnation témoigne de l'écoute parfaite d'un Dieu d'amour porté à un degré ultime et atteignant finalement son zénith dans un paroxysme de douleur à Golgotha. Notre Dieu est donc le modèle par excellence en matière d'écoute et de compréhension et c'est aussi pour cela que sa parole parle tant à nos âmes. La parole de Dieu parle à mon âme. Dieu me parle beaucoup plus par sa parole. Je ne dénie pas les dons spirituels, mais je ne suis pas à la recherche des dons spirituels. Je suis davantage à la recherche de la parole de Dieu écrite. Parce que toutes choses passeront, mais sa parole ne passera pas. Les dons spirituels passeront, mais sa parole ne passera pas. Et Dieu parle avant tout et surtout par sa parole. Et celui qui me dit, mais moi Dieu me parle sans que j'ai pour autant besoin d'ouvrir la parole, alors je pose la question, est-ce sincèrement Dieu qui te parle ? Permets-moi d'avoir des doutes. Permets-moi d'avoir des doutes, surtout quand je vois ce qu'il en découle. Dieu parle par sa parole. Mais pour arriver à comprendre sa parole, il faut que le Saint-Esprit soit agissant dans ta vie. Il faut être né de nouveau. Sinon, tu vas avoir qu'une approche intellectuelle de la parole de Dieu, ou alors, si tu n'as même pas l'intellect qui vient t'aider, tu n'auras qu'une démarche de confusion te disant « c'est trop compliqué pour moi, j'y comprends rien ». Pourtant, combien de gens qui n'ont pas fait de hautes études comprennent la parole de Dieu tous les jours de leur vie en lisant des passages? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient pour les éclairer. Notre Dieu est le modèle par excellence d'écoute et de compréhension. Et il sait comment il faut nous parler. Combien de fois dans ma vie Dieu m'a parlé? Il n'a pas fait des longs discours. Parfois, il a juste dit, mais tu sais vraiment combien je t'aime? et rien d'autre. Et là, ça a fait taire tout en moi. Toutes les craintes, toutes les peurs, toutes les agitations, tout le stress. Juste que Dieu te dise, mais tu sais vraiment combien je t'aime. Tu as vraiment compris quel est l'amour que j'ai pour toi. As-tu réalisé ça? L'as-tu mesuré? L'as-tu comparé à l'amour que tous les autres peuvent te porter? Et pourtant, tu fais tellement pour leur plaire, pour leur correspondre, pour espérer avoir encore de l'amour, pour espérer être encore accepté. Et moi qui t'aime d'une manière inconditionnelle, parfois tu fais le déni de mon amour. Tu passes totalement à côté. T'étonne pas d'être malheureux. T'étonne pas d'être malheureuse. T'étonne pas de continuer à vouloir aller après les autres comme une sangsue qui dit « Donne, donne, donne. Aime-moi, 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 aime-moi. Je suis en déficit d'amour. Mon réservoir est vide. Je vais tomber en panne bientôt. Faut que tu me remplisses, mon chéri, ma chérie. » Qui peut remplir l'autre, sincèrement? Personne. Seul le Seigneur peut nous remplir de son amour. Dieu ne s'est pas trompé dans sa réponse qu'il a donnée à nos besoins. Il n'a pas tapé à côté, mais il a agi de la manière la plus efficace qui soit, accomplissant lui-même ce que nous étions bien incapables de réaliser par nous-mêmes. Dieu a bien vu qu'on en était incapable de sortir de l'état dans lequel nous étions. Et il ne nous a pas donné la méthode pour sortir de nos problèmes. La Bible, ce n'est pas une méthode pour sortir de ses problèmes. La Bible, c'est la révélation de Dieu pour réaliser que Dieu lui-même a apporté la solution à nos problèmes. Et que pour sortir de ces problèmes-là, il ne suffit pas de s'en dépêtrer comme on peut, mais de mettre notre foi dans ce que Dieu a déjà accompli. J'oserais dire curieusement, mais ce n'est pas curieusement, c'est spirituellement, d'un seul coup, quand on comprend ça, nos problèmes commencent à changer. Sa parole est l'exacte réponse à nos besoins. Pour celui ou celle qui fait l'effort de la lire en laissant le Saint-Esprit l'enseigner, elle demeure toujours d'actualité et tellement perspicace au cœur de l'ensemble des problématiques que nous rencontrons dans nos vies. Alors oui, tu peux t'acheter des livres de psychologue, des livres de développement personnel, tu peux t'acheter, ah c'est point 1, point 2, point 3, voilà ce qu'il faut faire pour être heureux, pour vivre en paix. Ah j'en ai lu des méthodes comme ça, ça m'a rien apporté. Hein. Mais parfois dans le calme et la confiance, alors que je mettais mon âme entre les mains de Dieu, sans aucune méthode, si ce n'est celle de dire « Seigneur, j'ai besoin de ton aide », eh bien d'un seul coup une paix qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas l'expliquer. On reçoit quelque chose sans même comprendre. Par contre, on sait que la paix, elle est là. Et ça fait taire toutes les craintes, toutes les peurs. Certes, la Bible n'a pas été rédigée avec un glossaire énumérant une liste exhaustive des problèmes de la vie en face desquels nous pouvons trouver un numéro de page à consulter au milieu de laquelle nous pourrons lire une méthode simplifiée comme un tutoriel ou un didacticiel. Problématique de couple. Incompréhension entre le mari et la femme. Page 258. Page 258. Mari, voilà ce que tu dois faire. Point 1, point 2, point 3. Et femme, voilà ce que tu dois... C'est pas ça la Bible. Problème financier, page 325. Alors voilà ce que tu dois faire en cas de problème financier, point 1, point 2, point 3. C'est pas ça la Bible. Elle fait état plutôt d'une quantité d'histoires vraies et d'enseignements riches, spirituels et pleins de sagesse, de paraboles profondes, tellement utiles pour vivre notre vie selon Dieu. Alors oui, il faut faire un effort. Le même effort que tu fais quand tu es à table. Tu manges, après, il faut digérer. Mais tu manges. Et tu crois que ce qu'on te sert, ça va être bon. Tu vas pas tout analyser. Si tu m'invites à manger chez toi et qu'avant de manger, je dis « Attends, bouge pas, j'ouvre des petits sacs plastiques, des éprouvettes, tu mets de la nourriture dedans. » Et puis je dis « Attends, j'ai appelé le transporteur pour qu'il fasse faire une analyse au laboratoire le plus proche et quand j'aurai les résultats, alors je vais manger. » Tu peux me tenir ça au chaud en attendant? Vous allez me dire, non mais tu me prends pour qui là? Pour l'empoisonneuse du siècle quoi? Ah mais moi je veux savoir ce que je mange, j'avale pas n'importe quoi. La parole de Dieu, il faut la lire avec foi. Recevoir et digérer spirituellement. Écouter la parole de Dieu en lisant notre Bible, c'est comme avoir du miel sur notre langue. C'est aller à la source des paroles inspirées. Dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 4 et au verset 11, il est dit « Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée, il y a sous ta langue du miel et du lait. » Dans le livre du Cantique des Cantiques, au chapitre 4 et au verset 11, le roi dit que les lèvres de sa bien-aimée distillent du miel, et le terme employé pour distiller vient de l'hébreu nataf, qui signifie s'écouler et ruisseler, mais aussi tomber en gouttes, ou encore prophétiser, prêcher, discourir. Tes lèvres, ma bien-aimée, prophétisent. Le mot prophétesse vient d'un terme grec. Le prophétesse, c'était celui qui vivait à côté de l'oracle. L'oracle, c'était la divineresse, la femme, la pitié de Delphes, était une femme qui se tenait dans une caverne, elle respirait un peu des fumées bizarres dans la caverne, et puis elle partait dans des délires, elle parlait un langage charabia, et puis il y avait le prophète à côté qui écoutait les paroles de la divineresse, de l'enchanteresse, et derrière, il redisait dans un grec soutenu et même poétique les oracles de la pitié. C'était le prophète, celui qui parle à la place d'eux, celui qui est la bouche qui va retraduire dans un langage compréhensif ce qu'une divinité ou ce qu'une révélation pouvait dire. Toi, ma bien-aimée, tu es ma bouche. Tu redis les mots que je te dis. Tu emploies mes termes. Tu distilles le miel. Tu es toujours prête à parler. Le miel a toujours été un symbole important, vous savez, dans les cultures antiques. Il représente la douceur dans la Bible, est associé au don de prophétie. D'ailleurs, il y a l'image de Jean-Baptiste. Il se nourrissait de quoi, Jean-Baptiste, qui était le dernier des grands prophètes de l'Ancien Testament? Il se nourrissait du miel sauvage. Samson, qui était un des juges en Israël, trouva dans la carcasse d'un lion du miel. Et cela nous montre comment Dieu fit tourner toute la force de l'ennemi en un moyen de rafraîchir l'âme de celui qui se confie en lui. Le lion aurait pu te dévorer, mais tu as puisé ta force au point qu'aujourd'hui, tu as trouvé de quoi nourrir ton âme au travers des victoires que Dieu t'a accordées. La parole de Dieu est aussi dans la Bible comparée à du miel, au psaume 19, verset 10, au psaume 119, verset 103, dans Ézéchiel, chapitre 3, verset 3. Et l'excellence de cette parole divine pour le croyant est comme une nourriture solide, adoucie par le miel. Aussi longtemps que nous trouvons notre joie dans la parole, parce qu'elle est de Dieu, et à cause de la douceur que notre âme y trouve, notre conscience restera exercée devant Dieu, et nous serons gardés de l'égoïsme et de l'orgueil. Le bien-aimé du Cantique des Cantiques, la bien-aimée, pardon, du Cantique des Cantiques, dont les lèvres distillent le miel, est véritablement une belle image de ce que doit être l'Église pour le Christ, et donc de chaque croyant au sein de l'Église. Le Seigneur devrait pouvoir nous dire « Tes lèvres distillent le miel. Tes paroles sont douces et agréables pour l'âme, parce que tu as su écouter mes paroles. » Quand on goûte le miel, il est sucré. Il revigore les accablés, il guérit, il cicatrise, il apaise et il est plein de douceur. Comme le lait mentionné également dans notre verset du Cantique des Cantiques, il nourrit également ceux qui sont immatures. Des paroles qui poussent à la maturité. Il faut l'avouer, nous ne sommes naturellement pas des personnes encourageantes. Surtout pas les Français. Quand vous prenez, je l'ai souvent dit, vous prenez le dictionnaire et vous cherchez « encourageur ». Moi, quand je tape « encourageur » sur mon traitement de texte Word, il me dit « faute d'orthographe ». Encourageur, ça n'existe pas. Dans le vocabulaire français, le mot encourageur n'existe pas. L'encouragement existe, mais l'encourageur n'existe pas. C'est curieux, non, que dans notre langue. L'encouragement existe, mais il n'y a pas d'encourageur. Donc, à quoi sert l'encouragement s'il n'y en a pas qui l'apporte aux autres? pas d'encourageur en France, en tout cas pas dans le français. Il faudrait créer ce mot, non? On n'est pas des personnes encourageantes, apaisantes, pleines de douceur et enrichissantes, mais le miel coulant naturellement des lèvres est la caractéristique des personnes enseignées par Dieu. D'une personne qui sait prendre le temps de l'écouter, dans le but final de pouvoir par la suite parler de sa part. Combien de couples, de familles et d'églises ont besoin de lèvres qui distillent le miel, pas qui distillent le vinaigre, pas qui distillent le jus de citron, des lèvres qui distillent le miel. Une parole douce calme la fureur. De la bouche de la Sulamite, cette bien-aimée, sortent des mots doux et rafraîchissants, pas de médisance, ni de propos futiles. Elle ne lâche pas des mots, des flots de paroles, mais des gouttes de miel qui ruissellent de sa bouche. C'est pas des flots de miel, c'est juste des petites gouttes qui perlent et qui tombent aux bons endroits pour faciliter les choses. Est-ce que vous êtes un facilitateur ou un complicateur ? Est-ce que vous êtes tendance à faire diminuer les choses ou au contraire à avoir cette capacité d'une petite chose en faire une espèce de montagne, de faire tout grandir? Est-ce que tu es un facilitateur ou un complicateur? Quelqu'un qui rend les choses mais tellement compliquées. Arrête de te poser des questions, arrête de compliquer, arrête de faire grandir les choses. Si tu les regardais déjà à leur juste dimension, déjà ça rabaisserait le niveau. Mais après, si tu osais mettre les yeux de la foi sur les problématiques, sur les choses que tu reproches, alors tu verrais qu'elles diminueraient encore. Amen. Qu'elles diminueraient encore. Certaines personnes ne peuvent s'empêcher de parler, mais lorsqu'elles parlent de choses spirituelles, la façon dont elles s'expriment révèle qu'elles n'ont pas laissé la grâce œuvrer assez profondément en elles. Elles n'ont pas passé le temps nécessaire à écouter Dieu, le temps de lire sa parole et de s'en imprégner. Vos discours philosophiques, intellectuels, discussions vaines et inutiles qui n'apportent rien, c'est pas ça dont on a besoin. Quand quelqu'un passe par les difficultés de la vie, il n'a pas envie de savoir ce que Platon a à dire. Il n'a pas envie de savoir ce que Freud a à lui dire. Par contre, quand c'est Dieu qui parle, celui qui a créé toutes choses, quand on est porteur d'une parole de Dieu pour une âme souffrante, c'est bien plus qu'un baume qu'on lui apporte. C'est la vie au milieu de la mort. Vous connaissez les Kurdes ? Oui ? Il y a un proverbe kurde qui est super intéressant. Il dit « Certains se délectent du miel et d'autres n'ont que des piqûres d'abeilles ». Quand vous vous approchez de quelqu'un qui est en souffrance, c'est avec une cuillère de miel ou avec le dard d'une abeille? Certains se délectent de miel et d'autres n'ont que des piqûres d'abeilles. Oh, tristesse pour celui ou pour celle qui passe par les difficultés de la vie et qui n'a autour de lui que des abeilles qui le piquent, qui le font souffrir, qui le font gonfler, mais qui à aucun moment vont lui apporter quelque chose qui vont l'aider, qui vont le consoler, l'apaiser. Ce que les autres ont besoin, ce n'est pas de nos conseils personnels, ni de nos idées sur leur situation, mais d'une parole de Dieu dite à propos, comme le Proverbe 25:11 nous le dit, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. Ainsi est une parole dite à propos. C'est quelque chose de magnifique. Ça a mis du temps, ça a été ciselé. Ça a été façonné, des pommes d'or, des pommes en or, sur un plat argenté et ciselé. Ça, c'est une parole qui est dite à propos. Elle n'arrive pas comme ça. Elle paraît belle, mais on n'imagine même pas tout ce que l'artisan a dû passer comme temps là, pour la façonner, pour qu'elle ait autant d'éclat, autant de magnificence. Avez-vous observé que les lèvres de la Sulamite distillent non seulement du miel, mais elle a aussi du miel sous la langue. Quand on a du miel sur la langue, c'est qu'on le goûte, mais quand on l'a sous la langue, qu'est-ce que ça veut dire? Pour manger, on ne met pas la nourriture sous la langue, mais sur la langue. Et mettre du miel sous la langue symbolise le fait qu'on fait des réserves, qu'on emmagasine des richesses et qu'on en garde suffisamment pour en donner aux autres. Le miel revigore. Il apaise. Et plusieurs vertus, et à plusieurs vertus thérapeutiques, selon les nectars qui le composent, il est essentiel pour calmer les tensions quotidiennes, consoler les peines, rassurer, cicatriser et encourager. Au Proverbe 16, 24, il est dit « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. » À tout moment, ceux qui ont du miel sous la langue peuvent puiser dans leurs réserves et distribuer de la nourriture à ceux qui en ont besoin. Toutefois, ils ne révèlent pas tout ce qu'ils possèdent. C'est presque caché, c'est sous la langue. Ils n'exhibent pas tout ce que Dieu a mis en eux. Le miel sous la langue doit ruisseler sagement et humblement selon les besoins de ceux qui l'entourent. Au Proverbe 25, 16, il est dit « Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. » Qu'est-ce que ce verset nous apprend? Que c'est bien de donner du miel aux gens quand ils passent par des moments difficiles, des paroles qu'on a reçues dans la communion avec Dieu à la lecture de sa parole. Mais il ne faut pas saouler les gens non plus. J'ai quelque chose à te dire de la part de Dieu. La première phrase était de Dieu. Le problème, c'est les 300 phrases derrière qui étaient de toi. Il ne s'agit pas d'écœurer les gens et de les saouler de nos paroles, même si elles sont les meilleures qui soient. Même ce qui est bon, agréable et parfait doit être donné avec parcimonie. Dans 1 Pierre 4, 10, il est dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, comme des bons distributeurs des grâces de Dieu, des bons gérants des grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Combien de temps il faut pour produire du miel, vous savez? Entre le moment où l'abeille butine la fleur et le moment où on peut récolter le miel, il y a combien de temps? Non. 9 mois, c'est comme pour les bébés. Il faut 1 an. 1 an. 1 an. Tu vas aller butiner dans la parole de Dieu et t'attends pas à moins d'1 an pour que ce que tu auras butiné aujourd'hui puisse devenir du miel après une longue maturation. Les abeilles butinent de fleur en fleur, puis une fois rentrées à la ruche, les butineuses donnent leur récolte aux abeilles en charge de les enrichir avec des enzymes. Ensuite, les ouvrières vont faire sécher ce miel. Elles avalent le miel et le régurgitent plusieurs fois.
C'est bon le miel.
Elles l'étachent en couches avec leur langue. Elles entreposent tout ça dans des cellules et le laissent mûrir. Et puis après, il y a les abeilles ventileuses qui viennent avec leurs ailes. Elles font ensuite rentrer l'air de l'extérieur de la ruche. Et enfin, la colonie va se mettre ensemble pour faire monter la température de la ruche jusqu'à 30 degrés. C'est précis. Et tout ce processus va réduire la teneur en eau du miel, et cela en 4 jours. Enfin, la cellule, une fois pleine de miel, est recouverte de cire pour la protéger, et tout cela pour vous dire que le miel est un produit de transformation issu d'une longue maturation.
C'est pas le tout de lire la Bible comme ça, là. C'est un processus de transformation issu d'une longue maturation.
Entre le moment du butinage minutieux et le moment de la maturation du miel, il faut du temps. Et c'est la même chose spirituellement, la même chose. À juste titre, Jésus a affirmé que les paroles dépendent de ce qui remplit le cœur.
et que c'est le surplus de l'être profond qui jaillit des lèvres. Le surplus de l'être profond. Dans Matthieu 13, 34, Jésus va dire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire du surplus. Et à ce qui est pour toi, est-ce que tu vas emmagasiner de plus ? C'est ça qui va rejaillir. Qu'est-ce qui remplit votre cœur ? De quelle abondance votre cœur est-il rempli ? Qu'est-ce qui va rejaillir ? Parfois, on ne met pas longtemps de savoir ce qu'il y a dans un cœur quand on l'écoute un petit peu parler. Si nos cœurs sont vides, nous ne pouvons rien donner. Si nos cœurs sont remplis d'amertume, nous ne pouvons que redonner une nourriture amère. D'ailleurs, il est dit que les parents mangent des raisins verts. Vous avez déjà mangé du raisin vert ? Olivier, faudra que tu nous en amènes quand il sera vert pour le faire goûter aux frères et sœurs pour qu'ils sachent ce que c'est que le raisin vert. Et il dit que c'est les dents des enfants qui sont agacées. C'est-à-dire que c'est les paroles qui... Les parents qui se nourrissent d'amertume, de choses qui ne sont pas mûres. Et c'est les enfants qui en payent les conséquences. Oh, comme c'est vrai, non ? Qu'est-ce qui remplit ton cœur ? De quelle abondance est-il rempli ? Ce qui nous nourrit, ce que nous ruminons, se retrouvera dans notre bouche. On est tous des ruminants. Il n'y a pas que ceux qui mangent des chewing-gums qui ruminent. On rumine des pensées. Puis à un moment donné, on arrive à les oublier. Oup, elles partent. Puis bizarrement, oup, elles reviennent. Et on rumine encore. Et il m'a fait du mal, et elle m'a fait du mal. Et hop, ça repart, ça va mieux, ça va mieux. Et hop, ça revient. Et on rumine. Il suffit d'une image, d'une parole, d'un coup de téléphone, d'une rencontre. Et ça repart. C'est pourquoi il est écrit dans l'épître de Jacques au chapitre 3, versets 11 à 13, « La source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère ?» Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ? Ou une vigne, des figues ? Il n'y a bien que le sapin de Noël qui nous fait croire qu'il a des boules. Et même des guirlandes qui clignotent. Il ne faut pas que ta foi soit la foi du sapin de Noël, nous faire croire que tu as des fruits, mais qu'en fait, c'est tout du rajouté, du factice. Ce n'est pas tes fruits. Ce n'est pas les fruits qui jaillissent de ta vie, d'un long procédé, d'un long processus. On n'est pas des sapins de Noël. On est des arbres fruitiers qui doivent donner leurs fruits au moment propice. Quand Christ est venu vers le figuier qui n'avait pas de fruits, qu'a-t-il fait ? Il l'a maudit. Il n'avait pas de fruit, il l'a maudit. Il attendait du fruit, il n'y en avait pas. Dans l'épître de Jacques, la source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère ? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne, des figues ? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec de la douceur et de la sagesse. Un proverbe grec, il n'est pas cure de celui-là, il est grec. Le miel le plus doux s'aigrit dans un vase qui n'est pas net. Parce que tu peux aller puiser dans la parole de Dieu des bonnes paroles, mais si ton cœur est impur, même de belles paroles dites avec un cœur impur prendront le goût du cœur. Vous savez, c'est comme l'eau. Quand elle passe par un tuyau d'arrosage, je le dis souvent, t'as déjà bu de l'eau au tuyau d'arrosage ? C'est bizarre comme elle a le goût de caoutchouc. Pourtant, si tu débranches le tuyau du robinet et que tu bois l'eau au robinet, il n'y a pas le goût du caoutchouc. L'eau est passée par le tuyau et au bout du compte, l'eau qui était bonne a pris le goût du caoutchouc. Est-ce que les paroles de Dieu, quand elles passent par ton cœur d'un seul coup, au lieu que ce soit des paroles douces, elles deviennent des paroles amères. Au lieu d'apaiser, elles condamnent. Les mêmes paroles ont pris le goût du caoutchouc, le goût de ton cœur amer. Ce qui était fait pour soigner est devenu des paroles qui accusent. Notre cœur devrait être tellement purifié que notre cœur n'altère pas du tout ce que Dieu a mis dedans. Il faudrait arriver à restituer les choses telles qu'on les a reçues. Ne pas les modifier nous-mêmes. Attention à toujours maintenir le miel divin dans un vase pur. Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée 2,21, « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, » et vous pourrez lire ce qu'il dit dans la deuxième épître à Timothée, « Il sera un vase d'honneur, sanctifié, mis à part, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. » C'est bien beau de vouloir agglomérer du miel, d'avoir des paroles, d'augmenter sa connaissance, mais si on ne travaille pas à nous-mêmes, par la présence de l'Esprit en nous, à sanctifier notre vie en demandant à Dieu, « Mais Seigneur, fais ton œuvre en moi pour que ce que je reçoive de toi, je puisse le restituer le mieux possible. Purifie ma vie, mon cœur, mon âme. » Nous devons réaliser que les mots ont une extrême importance pour celui qui les prononce et encore plus pour celui qui les reçoit. N'oublions pas qu'avec la langue, nous sommes capables de chanter des louanges. Et avec la même langue, dit la Bible, nous sommes capables de jeter des malédictions. La même langue. Capable de chanter des louanges et une heure après, de maudire. Oh ! Vous l'avez compris, il est difficile de tricher longtemps avec la langue. Car tôt ou tard, elle fera jaillir ce que contient vraiment notre cœur. Inutile de jouer les hypocrites pour avoir de bonnes paroles jour après jour. Il faut absolument avoir un cœur renouvelé, régénéré, rempli de grâce et d'amour, ainsi qu'une oreille ouverte et attentive. Il faut écouter pour bien parler. Et veiller à ce que ce qu'on a entendu ne vienne pas se faire dénaturer par toutes nos pensées, nos réflexions philosophiques, nos mal vécus. Quand le miel ne manque pas, les paroles vraies venant de Dieu et jaillissant d'un cœur pur sont les seules qui peuvent apporter la vie, les mots qui encouragent, bénissent et relèvent ceux qui et relèvent sont ceux donnés du fond du cœur par une personne foncièrement sincère et aimante qui porte en elle les paroles mêmes de Dieu. Il est vrai que pour les donner, il faut savoir regarder avec les yeux de l'amour. C'est-à-dire avoir les yeux de Dieu. On en parlera la semaine prochaine, d'un regard qui donne la vie. Les yeux de Dieu avec son amour inconditionnel. Alors il suffit d'ouvrir la bouche et de faire jaillir des paroles qui donnent la vie. Nous vivons dans un monde qui est saturé de paroles et d'informations. Mais rares sont les paroles de Dieu qui sont écoutées. Et plus rares encore sont celles qui sont dispensées. En tant que disciples, si nous voulons avoir une langue exercée pour soutenir par la parole ceux qui sont abattus, nous devons auparavant écouter comme écoutent des disciples. Et le Nouveau Testament parle d'un homme qui ne manquait pas de miel, Barnabas. Barnabas est le fils de l'encouragement, ou l'encourageur, si on avait un bon dictionnaire en français. Dans Actes, chapitre 9, versets 27 et 28, il est dit « Alors Barnabas leur raconta comment, sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur, il, Saul, allait et venait avec eux à Jérusalem. » Vous savez que Saul de Tarse était un persécuteur des chrétiens. Et évidemment, les frères de Jérusalem, les responsables de l'Église, puisque c'est là qu'elle a commencé, n'avaient pas du tout envie de rencontrer Saul de Tarse et encore moins de se l'associer. Mais il y a un Barnabas, un fils de l'encouragement, qui est allé vers Paul. Et Barnabas va raconter aux frères de Jérusalem, aux responsables de l'Église, comment sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur. Il raconte l'histoire de Saul de Tarse alors qu'il n'était pas là. Qu'est-ce qu'il a dû faire Barnabas pour pouvoir raconter l'histoire de Saul de Tarse aux frères de Jérusalem ? Il a dû bien écouter Saul de Tarse. Le texte grec introduit le verset 28 d'acte 9 par une conjonction en grec. Elle se dit kai, k-a-i, que l'on peut rendre ici par et, conjonction de coordination, vous avez appris ça, hein, mais où est donc ornicar, ça vous... Ou alors, dès lors. Et la Bible du Semeur traduit ainsi, dès lors, Saul
se joignit à eux, allant et venant à Jérusalem. C'est-à-dire que dès que Barnabas a parlé aux frères de Jérusalem, dès lors, l'apôtre Paul, Saul de Tarse, allait et venait dans Jérusalem avec les frères de l'église de Jérusalem. Il était associé à eux. Et ce que nous devons comprendre ici, c'est le lien de cause à effet par ce petit mot « caï », dès lors, qui met en évidence, entre l'écoute attentive de Barnabas et son témoignage en faveur de Saul, et le déblocage de la situation qui fermait la porte d'entrée de Jérusalem, que Saul était cet homme craint dans le passé de persécuteur, mais dès lors, maintenant, parce que Barnabas avait écouté, parce qu'il avait bien redit les choses, parce qu'il avait été un intercesseur auprès des frères, maintenant la porte avait été ouverte pour Paul, l'ancien Saul de Tarse, qui avait été jugé, connoté, mis à l'écart. Si Barnabas savait écouter Dieu, il avait aussi appris à bien écouter les autres. N'est-ce pas ainsi que l'on devient un bon intercesseur auprès de Dieu et des autres ? Pour bien prier pour les autres, il faut un peu connaître leur histoire, non ? Et pour connaître leur histoire, il faut bien les écouter un peu. Pour bien être un bon intercesseur auprès des autres, pour défendre la cause d'un frère ou d'une sœur qui serait mal jugée, il faut quand même bien connaître ce frère ou cette sœur. Pour faire voir aux autres que leur jugement est inexact et non fondé. Le message de Barnabas a manifestement été bien entendu et reçu par les responsables de l'église de Jérusalem. Ses paroles, dirigées par l'esprit, ont fait mouche et son plaidoyer en faveur de Saul de Tarse, devenu Paul, a ouvert les cœurs cadenassés par la peur. Le mécanisme de rejet a été stoppé. La greffe a pu prendre et Paul a pu être ainsi intégré à l'église. Oh, quel dommage s'ils avaient continué à le rejeter. Non ? Quel dommage ça aurait été. Barnabas illustre la personne qui prend le temps d'écouter vraiment et dont le but premier est d'apprendre et de comprendre. Apprendre et comprendre. Son écoute de qualité va engendrer le respect, la crédibilité et va favoriser une bonne réceptivité de son message. L'homme qui sait écouter mérite d'être écouté. Tu veux être écouté ? Bah, prends le temps d'écouter. Beaucoup veulent parler, mais peu veulent écouter. Parce que Barnabas était l'homme de l'écoute qui coûte, parce que ça coûte d'écouter. Il a su comment il fallait parler en la circonstance, alors il a été écouté. À l'image de Barnabas, nous devons bien écouter pour pouvoir bien encourager, bien soutenir, bien relever et bien fortifier. Communiquer le miel. Pour conclure, c'est donc devant notre Bible ouverte que nous devons apprendre à recevoir et à comprendre les instructions du Seigneur. C'est aussi dans ces moments que nous devons apprendre à nous soumettre à son autorité, à lui obéir. D'ailleurs, certains commentateurs disent « il m'a ouvert l'oreille ». Alors on pourrait penser « j'avais l'oreille bouchée, me l'a ouverte ». Mais certains disent « non, c'est quand l'esclave est enfin libéré qu'on va lui perforer l'oreille, on va lui ouvrir l'oreille pour qu'il puisse, eh bien, prouver qu'il n'est plus esclave, mais qu'il est un esclave consentant qui souhaite rester avec son maître. Et donc ceux qui avaient l'oreille ouverte étaient des esclaves de cœur et d'amour, qui continuaient à servir leur maître, mais pas par contrainte, mais par amour. Il m'a ouvert l'oreille, il m'a amené à être de ceux qui écoutent et qui obéissent. Et ça parce que je l'aime. Et dans ces moments que nous passons avec notre Bible ouverte dans la présence du Seigneur, à le laisser nous parler par ses paroles, c'est dans ces moments que nous devons apprendre à nous soumettre à son autorité, à lui obéir. Voilà comment notre oreille est aussi ouverte. Un homme disait, si tu pries Dieu de te parler, mais que dans ta tête, tu penses que tu ne vas pas lui obéir, t'attends pas à ce que Dieu te parle. Dieu connaît l'intention de ton cœur. Dieu ne parle pas à ceux qui sont trop rigides et qui ne veulent pas obéir.
Ils ont peut-être l'oreille ouverte à autre chose, mais certainement pas à Dieu. Dieu ne perd pas son temps à parler à des rebelles et à des gens qui ne veulent pas obéir. Dieu parle à ses enfants. Et les enfants de Dieu ont une caractéristique commune, ils obéissent à ses paroles. Les enfants de Dieu sont des enfants obéissants, ce ne sont pas des rebelles. Les enfants de Dieu ont eu un cœur changé, régénéré. Le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux les amène à entrer dans le vouloir et le faire du Père. L'Esprit de Dieu ne nous pousse pas dans des rigidités, dans des désobéissances. Oh non, c'est plutôt tout le contraire. Nous devons apprendre à écouter, nous soumettre à l'autorité de Dieu et à y obéir. Bunyan a été emprisonné plusieurs fois. Parce qu'à chaque fois qu'il sortait de prison, on l'interdisait de prêcher, mais lui, il continuait. Alors hop, on le remettait à la prison. Il a fait que ça. Plusieurs fois dans sa vie, emprisonné parce qu'il ne pouvait pas désobéir à son Dieu et continuer à parler de l'amour de Dieu. Voilà ce qui nous permet d'être des porte-paroles de Dieu fidèles, qui partagent avec d'autres le message le mieux adapté à leurs vrais besoins, dans l'attitude qui convient le mieux. De la qualité de notre écoute dépend notre utilité et notre efficacité dans l'exercice de notre vocation chrétienne. Dans Ésaïe, au chapitre 50, verset 4, il nous est rappelé que, comme le serviteur de l'Éternel a su merveilleusement soutenir par la parole les découragés. Vous le retrouvez dans Luc. Chapitre 4 et au verset 18, où le Christ reprend les propos d'Ésaïe lorsqu'il fait la lecture dans le temple. Nous sommes aussi appelés à soutenir, fortifier, relever, soulager par la parole ceux qui sont fatigués, lassés, usés par les difficultés de la vie. Si mon écoute de Dieu est vraiment celle d'un disciple, ma parole sera aussi celle d'un disciple, parce qu'une langue de disciple va de pair avec une oreille de disciple. Une langue de disciple va de pair avec une oreille de disciple. Et en apprenant à bien écouter Dieu, nous apprenons à bien écouter notre prochain et à lui parler de la part de Dieu de la manière la plus appropriée à ses besoins. Mais n'est-ce pas aussi le meilleur moyen de prier efficacement pour lui, de parler à Dieu de cette personne de la meilleure manière qui soit? Si vous ne me connaissez pas, priez pas pour moi. Si vous voulez prier pour moi, ayez au moins la décence de venir me demander pourquoi il faut prier. Quels sont mes besoins? Être ensemble, c'est aller vers l'autre. J'ai à cœur de prier pour toi. Peux-tu me dire quels sont les besoins que tu désires me communiquer actuellement? Pourquoi tu veux que je prie pour toi? J'ai foi dans l'intercession des frères et des sœurs, des fois bien plus que dans la mienne. Mais encore faut-il qu'ils sachent pourquoi ils prient. Certains prient sans savoir, alors ils disent « Bénis le frère, je ne sais pas ce dont il a besoin, mais toi Seigneur, tu sais toutes choses. » C'est sûr que ça va être dur de prier longtemps hein, pour ce frère ou pour cette sœur si on ne sait rien de lui ou elle. « Seigneur, tu connais tout, hein, ça y est, c'est bon, j'ai fini. » Mais parfois, il faut payer le prix dans la prière. Il faut aller chercher entre les mains du Père les grâces qu'il tient en réserve. Il faut aller écouter ce que Dieu a à dire peut-être pour ce frère et cette sœur pour laquelle on prie, afin d'aller lui redire ce que Dieu nous a dit. Il faut savoir accorder du temps à Dieu et accorder du temps à l'autre. Bien me recueillir devant Dieu, c'est me préparer à bien accueillir l'âme découragée et à bien intercéder en sa faveur. Et pardonnez-moi la dernière citation, il n'est pas très chronoté évangélique, hein, mais c'est pas grave. Bernard de Clairvaux, il dit « Celui qui médit et celui qui écoute le médisant, tous deux ont le diable sur eux. » Ça va comme ça. Mais l'un l'a en la langue et l'autre en l'oreille. Celui qui médit et celui qui écoute celui qui médit ont tous les deux le diable dans leur vie. L'un l'a sur la langue et l'autre l'a dans l'oreille. Un jour, ma mère, il y avait des gens qui venaient la voir et qui lui rapportaient toujours un tas de ragots. Elle dit, je ne sais pas comment m'en débarrasser. Je lui dis, écoute, je vais te donner une solution. Quand ils viennent te voir et qu'ils te parlent comme ça, tu sais ce que tu leur dis? Mes oreilles ne sont pas des poubelles. Mes oreilles ne sont pas des poubelles. Tu ne viens pas déverser toutes tes saletés dans mes oreilles. J'ai envie de garder mes oreilles propres pour garder mon âme propre. Alors ça, je n'ai pas envie de l'entendre. Tu vas dire ça à qui tu veux, mais pas à moi. Je fais du tri sélectif avec mes oreilles.
Amen. Du tri sélectif. À l'opposé de cette déclaration, nous pouvons dire que celui dont la langue est celle d'un disciple, une langue qui est bien exercée et maîtrisée par le Saint-Esprit à la suite d'une bonne écoute de la parole de Dieu et des autres, est une véritable bénédiction. Cette personne a la présence de l'Esprit en elle et transmet les grâces divines aux autres. Alors ne sous-estimons pas l'impact de nos paroles sur ceux et celles qui nous entourent. Et qu'au lieu de détruire, elles apportent la vie. Qu'au lieu de maudire, elles bénissent. Que nos paroles soient agréables comme le miel, douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. Qu'elles soient toujours inspirées de Dieu parce qu'elles viennent sans cesse s'alimenter à la source de sa parole, qui est la Bible. Seigneur, je veux avoir plus de miel dans ma bouche. Et aide-moi à me tenir dans ta présence, à écouter, à lire ta parole, à entendre ce que tu as à dire, non seulement pour ma vie, parce qu'elle en a besoin. Je n'ai pas cette arrogance de penser que les autres auraient besoin de tes paroles et que moi j'en sois défait. Déjà pour moi, Seigneur. Charité bien ordonnée, c'est de commencer par soi-même. Je ne suis pas en bon état, Seigneur, j'ai besoin de ton aide, de ta grâce, de ton soutien. Comment je pourrais parler aux autres si moi-même je dysfonctionnais? Quel impact auraient mes paroles si ma vie n'était pas à la hauteur de ce que je déclare? Certains ont beaucoup de foi pour déclarer, mais peu pour s'approprier à ce que Dieu dit dans leur propre vie. La Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Oui, mais dans ta vie, ah ben oui, mais dans ma vie, j'arrive pas. On ne te demande pas d'être un perroquet avec des belles plumes, un grand bec qui fait du bruit mais qui ne fait rien de clair. On te demande de vivre toi-même de cette parole vivante, de t'en nourrir l'âme et tout le surplus que tu iras chercher. Alors tu pourras peut-être aller vers ceux qui ont besoin, qui n'ont rien, et dispenser cette parole de vérité dans leur cœur, dans leur âme. Tu n'as peut-être pas été placé là où tu es pour rien. Peut-être tu es auprès d'enfants, peut-être tu es auprès de vieillards, peut-être tu es auprès d'hommes et de femmes en difficulté, peut-être que ton mari à côté de toi, ta femme ou tes enfants n'aspirent qu'à une chose dans leur vie, une parole de Dieu. Le problème, c'est que tu les lasses et tu les saoules avec toutes tes paroles. Alors apprends à te taire sur beaucoup de choses, laisse Dieu te parler. Et redonne les paroles de Dieu et tu vas voir les changements autour de toi, comme jamais tu les as vus auparavant, parce que quand Dieu parle, son esprit agit et il débloque toutes les situations, comme ce fut le cas pour l'apôtre Paul avec les frères de Jérusalem. Que Dieu soit béni.